du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, avec les mœurs, avec le climat, bon, avec la religion et le commerce. Voilà un sous-titre, un programme donné par Montesquieu à l'esprit des lois qui doit vous sembler particulièrement intéressant, Henri Van Lier, dans cette histoire langagière de la littérature.
Pour comprendre un peu Montesquieu, il faut bien voir qu'il conclut 35 ou 40 années de crise. Ça commence à peu près en 1685, avec la révocation de l'édit de Nantes, tout d'un coup tout se brouille dans le règne de Louis XIV, et commence ce que l'on a appelé parfois la crise de la conscience européenne. Jusqu'à la mort du roi, mais on dirait qu'il faut encore plusieurs années après la mort du roi pour qu'on se ressaisisse. Toute la grandeur, tout l'élan du XVIIe siècle sont retombés, et Montesquieu note déjà, dans ce siècle, plus de Grecs, plus de vers, plus de sermons. Et encore, on ne saurait croire jusque où a été, dans ce dernier siècle, la décadence de l'admiration. C'est bien ça, c'est l'élan qui est parti. Mais en même temps, on voit d'un autre côté qu'il y a eu Newton, et il y a eu aussi Leibniz, c'est-à-dire l'instauration du calcul, tout le grand démarrage de la science contemporaine, ce calcul que justement Pascal n'avait pas mis en place. Et bien entendu, les deux aspects sont liés. C'est précisément parce qu'il y a une certaine décadence politique et qu'en même temps il y a cette instauration du calcul que tout d'un coup, plus de Grecs, plus de vers, plus de sermons et la décadence de l'admiration littéraire en tout cas. Et voilà à peu près les conditions qui permettent un peu de comprendre que quelqu'un alors ait une première vue de ce qui va devenir la sociologie. C'est-à-dire que là où Newton voit une gravitation dans la nature, il va pouvoir apercevoir une gravitation à l'intérieur des sociétés, et d'autre part, va saisir ces sociétés comme un ensemble d'actions et de réactions. En précisant bien qu'il y a des sociétés, il y a des gouvernements, il y a des lois. Il n'y a pas la loi générale, ni le gouvernement général, ni la société comme telle. Non, il n'y a que des sociétés avec à l'intérieur d'elles des interactions, mettant en jeu des éléments extraordinairement divers, et quand on dit action-réaction, il faut bien voir qu'il y a aussi des réactions de la réaction. C'est une des saisies intéressantes de Montesquieu, en reprenant d'ailleurs un mot de Fontenelle, donc c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, les bons esprits en forme de mauvais. Voilà, quelque chose qui permet d'avoir une vue sociologique. Vous donnez de bons professeurs, eh bien ça va faire très souvent de très mauvais élèves. Précisément parce que les professeurs sont bons. Bon, et les mauvais pourront faire de bons, etc. Donc tous ces retournements de ce que nous appelons souvent donc maintenant les effets pervers. Et ces sociétés, ces gouvernements, justement à travers l'esprit scientifique de l'époque, ils vont apparaître comme ayant une certaine structure. Et le mot structure est employé par Montesquieu. Donc, c'est fait d'une structure. Mais il ajoute presque immédiatement qu'avec ces structures, parce qu'elles sont chaque fois différentes pour chaque société, eh bien, vont des passions. Il y a toute une énergie. Et quand il dit, voilà, vous savez, pour les structures, il y a la démocratie, la monarchie, le despotisme, eh bien, chaque fois, il y aura des passions accompagnatrices. Pour la démocratie, la passion, ce sera la vertu. Pour la monarchie, la passion, ce sera l'honneur, et pour le despotisme, ce sera la crainte. Et ceci nous permet de comprendre en quoi Montesquieu intervient dans une vue de la littérature, une histoire de la littérature, c'est que il y a une poussée qui va le porter à avoir un sujet, ce que nous avons appelé un sujet langagier. Et je note par exemple ceci, pour bien écrire, il faut sauter les idées intermédiaires, assez pour n'être pas ennuyeux, pas trop de peur de n'être pas entendu, ce sont ces suppressions heureuses qui ont fait dire à M. Nicole que tous les bons livres étaient doubles. C'est-à-dire qu'étant donné que dans n'importe quel gouvernement, il y a des milliers d'interactions qui provoquent elles-mêmes donc des réactions, on va être obligé de créer un style suffisamment sautillant pour attraper ces phénomènes dans leur extrême diversité. Somme toute, nous avons vu que chez Pascal, le style est appelé par des sauts. De la même manière, chez Montesquieu, le style, le sujet langagier, est également appelé par des sauts. Bien entendu, ce sont des sauts très différents, comme il va apparaître. Mais avec tout ça, on ne fait sans doute pas encore Montesquieu. On ne ferait sans doute que Voltaire. Après dîner, la marquise me la candide dans son cabinet, et le fit asseoir sur un canapé. « Eh bien, lui dit-elle, vous aimez donc toujours éperdument mademoiselle Cunégonde de Tintortentronck ?»« Oui, madame, » répondit Candide. La marquise lui répliqua avec un sourire tendre. « Vous me répondez comme un jeune homme de Westphalie. Un Français m'aurait dit, il est vrai que j'ai aimé mademoiselle Cunégonde, mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. » Il y a aussi beaucoup de choses, en sautant, mais il y a justement chez Voltaire l'absence d'un autre aspect de Montesquieu sur lequel nous devons insister maintenant. Et c'est, dans tout ce jeu, un sentiment de la grandeur. Il reste quand même une grandeur. Et les deux combinés, cette façon de sauter, de devoir perpétuellement sauter d'une chose à l'autre, mais quand même dans une certaine grandeur, ça va faire l'écriture de Montesquieu, à savoir le verset. L'esprit des lois est écrit en verset, un peu comme Pascal écrit en verset. Je mets deux choses là-dedans, au moins deux, c'est-à-dire que, d'une part, l'idée est entourée par du blanc, comme dirait Claudel. Hein, il dit, le verset est une idée entourée par du blanc. Bon, pour n'importe où, que ce soit dans la Bible, chez Pascal ou ici. Donc, six lignes, sept lignes, c'est entouré par du blanc, ce qui est très important. Et deuxième chose, à l'intérieur maintenant de ce blanc, on voit justement un jeu de quelques actions, réactions et de quelques retournements. Et alors, assurément, et c'est à ça que nous venons, c'est le souffle de la grandeur. En effet, ces lois ne sont pas toutes données comme ça dans un simple hasard. Lisons du Montesquieu et commençons à écouter justement cette éloquence de la gloire. Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Nécessaire, c'est donc pas du tout le nécessaire de Pascal. Quand Pascal dit justement, il est nécessaire que le plus fort. Non, ici, le nécessaire, il y a eu quelqu'un entre les deux. Et ce quelqu'un, c'est Leibniz, chez qui la notion de nécessité est fondamentale. Le nécessaire, c'est justement que tout ça est inscrit en nature profonde, dans une sorte de raison, et même, il faut le dire, dans une sorte de raison divine. Mais, continuons simplement, et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois. La divinité a ses lois. Le monde matériel a ses lois. Les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois. Les bêtes ont leurs lois. L'homme a ses lois. Et voilà, on voit très bien la structure du verset. Hein. Deux fois, j'ai ses lois, puis leur loi, et je retombe sur ses lois. Et j'ai ouvert un nombre extraordinaire de dimensions, puisque les lois touchent à la fois la divinité, elles touchent les bêtes, elles touchent l'homme, elles touchent tout à la fois. Dieu a du rapport avec l'univers, comme créateur et comme conservateur. Et donc, on ne peut, somme toute, bien comprendre Montesquieu, que si on se rend compte, et il le dit lui-même, il y insiste tout le temps, comment tout ça procède, quand même encore toujours d'une intelligence divine. On se souvient peut-être que nous avons signalé la chose à propos du discours sur l'histoire universelle de Bossuet, et également à propos de la science nouvelle de Vicot. C'est à partir de l'idée de providence que on va se dire que le monde a une intelligibilité, que les lois de l'histoire ont une intelligibilité. Chez Montesquieu, l'idée de providence disparaît. C'est plus l'idée de providence, c'est pas un dieu qui règle du tout dans le détail. Mais pour finir quand même, les lois profondes renvoient à une intelligence divine. Dieu a du rapport avec l'univers, comme créateur et comme conservateur. Les lois selon lesquelles il a créé sont celles selon lesquelles il conserve. Il agit selon ses règles parce qu'il les connaît. Il les connaît parce qu'il les a faites. Il les a faites parce qu'elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance. Et ça donne une grandeur. De même, Montesquieu insiste sur le fait que, je dirais, pour être lui-même, il a besoin d'une certaine croyance à l'immortalité de l'âme. Quand l'immortalité de l'âme serait une erreur, je serais très fâché de ne pas la croire. Le dogme de l'immortalité de l'âme nous porte, ah oui, le porte est très important, à la gloire, au lieu que la créance contraire en affaiblit en nous le désir, peu importe. Mais non, nous porte à la gloire. Ça permet de comprendre cette tension. Alors avec ça, nous avons à peu près, avec le verset, nous avons à peu près ce qui se passe dans le sujet langagier de Montesquieu. Mais je crois qu'il apparaît admirablement dans la notation très fine qu'il va faire maintenant. Un roi de France ne venge pas les injures d'un duc d'Orléans. C'est la façon dont Boileau des Préaux a rapporté un propos de François Ier. Montesquieu continue. Il faut dire, le roi de France ne venge pas les injures du duc d'Orléans. L'un, donc la première phrase, celle de Boileau, est une réflexion. L'autre, la mienne au fond, à moi Montesquieu, est un sentiment. L'un peut être dit de tout le monde. L'autre nous frappe parce qu'il ne peut avoir été dit que par le roi de France qui a eu ce sentiment. Il n'en faut point faire une pensée générale, ce qui frappe d'admiration. De nouveau, il s'agit d'être perpétuellement, tout en faisant de la... On découvre la sociologie, il s'agit d'être perpétuellement dans une espèce de tension d'admiration. Ce qui frappe d'admiration, c'est lorsque la chose est dite par celui qui la sentait, qui la sentouait, et la sentouait dans le moment où il l'a dit. Et tout Montesquieu est ça. Chaque phrase, chaque bout de l'esprit des lois est admirable parce que la chose est dite par celui qui la sent et qui la sent dans le moment où il l'a dit. Alors avec tout ça, Montesquieu va pouvoir instaurer encore autre chose que la vue de la sociologie. Attention, bien sûr, il n'instaure pas la sociologie. Il institue la vue sociologique. Et de même, il ne va pas instaurer la sémiologie, mais il va instaurer la vue sémiologique. Écoutons, c'est dans ses admirables réflexions sur la grandeur des Romains et leur décadence et qui prépare l'esprit des lois. César gouverna d'abord sous des titres de magistrature, car les hommes ne sont guère touchés que des noms. Ah, voilà. Fantastique. C'est à peu près toute la sémiologie. Les hommes ne sont guère touchés que des noms. Et puis ça continue. Et comme les peuples d'Asie abhorraient ceux de consuls et de proconsuls, les peuples d'Europe détestaient celui de roi, ben voilà, donc comment s'appeler après tout ça? De sorte que, dans ces temps-là, ces noms faisaient le bonheur ou le désespoir de toute la terre. Ce sont des noms qui font le bonheur et le désespoir de la terre. César ne laissa pas de tenter de se faire mettre le diadème sur la tête. Deuxième chose, des objets. Diadème ou pas diadème. Mais voyant que le peuple cessait ses acclamations, il le rejeta. Et alors, nous n'avons pas encore fini. Il va parler de croyance, le jeu des croyances, une phrase extraordinairement subtile. Et je ne puis comprendre qu'il pût croire, lui je le sais ça, que les Romains, pour le souffrir tyran, aimassent pour cela la tyrannie, ou crus avoir fait ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont accepté un tyran sans croire qu'ils acceptaient un tyran. Un jour que le Sénat lui déférait de certains honneurs, c'est une troisième chose maintenant, c'est la coutume. Il négligea de se lever, et pour lors les plus graves de ce corps achevèrent de perdre patience. C'est alors la réflexion qui instaure un troisième aspect de la sémiologie. On n'offense jamais plus les hommes que lorsqu'on choque leurs cérémonies et leurs usages. Et alors ici, on va bien voir le verset. Donc ce que je viens de lire, c'est le début du verset. Cherchez à les opprimer, c'est quelquefois une preuve de l'estime que vous en faites. Choquer leurs coutumes, c'est toujours une marque de mépris. Alors si on prend les trois phrases, on voit là, il y a une série à la fois d'éclatements et de carambolages extraordinaires. On n'offense jamais plus les hommes que lorsqu'on choque leurs cérémonies et leurs usages. Cherchez à les opprimer, c'est quelquefois une preuve de l'estime que vous en faites. Choquer leurs coutumes, c'est toujours une marque de mépris. On peut parler pendant 3 heures là-dessus. Donc, il instaure, là, on pourrait dire le coup d'œil sémiologique, mais de nouveau, il n'institue pas la sémiologie. C'est impossible étant donné son sujet langagier. Il ne peut pas commencer à faire un système, parce qu'à partir de ce moment-là, le type même de vue de Montesquieu, et ce par quoi il nous intéresse, disparaîtrait. Mais troisième temps, il a maintenant, après la sociologie, la sémiologie, fonder ce qu'on pourrait appeler la linguistique fondamentale. Peut-être partons d'un exemple. Il va faire remarquer, la langue française consiste toute en iambes. Ah bon?
nous parlons en iambe. C'est-à-dire que l'on sépare tout de deux syllabes en deux syllabes, dont la première est brève et l'autre longue. Ce qui donne des indications précieuses, évidemment, sur la lecture de Montesquieu et bon. Et de... La langue italienne, au contraire, consiste toute en tranchée. Donc iambe, c'est brève longue, hein. Tranchée, c'est longue brève. Consiste toute en tranchée et est coupée de deux en deux syllabes, d'une longue et d'une brève. Cela fait deux déclamations totalement différentes. Mais non seulement ça fait pour lui deux déclamations, mais ça fait deux peuples, ça fait deux esprits complètement différents. Eh bien, qu'est-ce qu'il crée là? Il crée ce qu'on pourrait appeler la linguistique fondamentale. Pour un peu comprendre ça, donc, rappelons-nous à peu près ceci, c'est qu'il y a d'abord une linguistique qu'on pourrait dire la linguistique comparatiste. C'est la linguistique de Saussure, c'est une linguistique, une étude des langues faite par quelqu'un qui a comparé des langues entre elles, et bien entendu pour qui le signe est arbitraire, précisément parce qu'il fait un type de comparaison qui suppose l'arbitraire du signe. Très bien. Il y a aussi une linguistique qu'on peut appeler la linguistique informatique. La linguistique informatique, c'est celle de Chomsky, comment saisir une langue de manière à en faire quelque chose qui puisse entrer dans des machines à traduction, pour finir. Bien. Alors ça va supposer qu'on réduise tout à un certain nombre d'éléments universels et que de nouveau, on essaye de tout ramener pour le reste à un arbitraire généralisé. Alors, il est extrêmement intéressant pour nous de nous rendre compte de ceci, c'est que le XVIIe siècle, que nous avons quitté il y a quelque temps, le XVIIe siècle dans la grammaire de Port-Royal, et même jusqu'à un certain point dans la logique de Port-Royal, est tout proche déjà de Chomsky. Et quand Chomsky, donc, c'est-à-dire d'une linguistique, qui s'informatise. Et en effet, n'oublions pas que le XVIIe siècle va se terminer par Leibniz, qui va poser justement toute la problématique informatique dont nous avons hérité maintenant, hein, le départ de cette problématique informatique. Donc, il faut arriver à tout réduire à un certain nombre d'éléments absolument universels avec lesquels on va pouvoir jouer dans une combinatorique, dans une combinatoire et une caractéristique universelle. Donc, le XVIIIe siècle apparaît alors dans toute son originalité en tant qu'il va réagir, et nous allons retrouver la même chose chez Rousseau, contre ce type-là de linguistique. En instaurant, non pas une linguistique fondamentale, je répète, Montesquieu n'est pas systématique, mais en introduisant la vue d'une linguistique fondamentale, c'est-à-dire d'une linguistique qui s'occupe du langage courant, du vrai langage courant, où bien entendu, les signes ne sont pas particulièrement arbitraires, ils sont arbitraires pour un quart ou pour un cinquième, mais pour tout le restant, si je dis « à la vache », hein, il est bien entendu que c'est très peu arbitraire, et que le fait qu'il y a là-dedans un « a », un « che » et un « v » sont absolument fondamentaux. Hein, c'est pas que ça renvoie arbitrairement à un animal qui, etc. Si je disais « Ah, la souris », il est certain que j'obtiens pas du tout le même résultat. Donc, il va s'intéresser à ça et se rendre compte que vraiment les peuples sont profondément déterminés par ces systèmes langagiers. Et continue, les Anglais et les Allemands, et originaires teutons, ne font ni trochet ni iambe. Ils font des dactyles. Et ils citent « Milord Cartwright ». Hein, il sait l'anglais, la circulée, etc. Mais le cartwright. Alors il dit cartwright, c'est un dactyle, une longue et puis deux brefs après. Maintenant, peu importe, est-ce que l'anglais est véritablement dactylique, c'est pas notre problème de savoir s'il dit des choses exactes ou pas exactes. Mais c'est de voir la problématique instaurée. Ces langues, alors dit-il, souffrent mieux la musique italienne que la française, parce qu'évidemment il va en tirer la conclusion que le français ne peut absolument pas être repris par la musique italienne. Chacune de ces musiques est donc excellente, mais il faut seulement voir que notre déclamation est meilleure et notre musique est moins bonne. Et puis ça continue comme ça, en disant la déclamation italienne est faible et ne peut donc être bonne dans le tragique, parce qu'il est impossible de prononcer un mot soutenu, parce qu'on finit toujours par une brève. Donc voilà que, à partir de sa théorie, il essaye de faire comprendre que, en fin de compte, en italien, il n'y a pas de tragédie. Qu'il ait raison ou tort, je répète, ce n'est pas notre point de vue. Je ne sais pas encore, alors ça c'est très beau, je ne sais pas encore pourquoi les vers, et entre parenthèses rimes, sont insupportables dans une comédie ou tragédie italienne, comme on dit. D'ailleurs, il dit, voilà quelque chose que tout le monde dit, eh bien, je ne comprends pas encore tout à fait. Mais enfin, il instaure vraiment la problématique. Alors, il continue en disant, voilà, nous gardons la percussion pour la fin, et ça continue comme ça. Alors, c'est passionnant, Parce que bien sûr, ça va faire la mentalité anglaise, toute la folie de la mentalité anglaise. Autre remarque passionnante, les articles dont notre langue est pleine empêchent nos vers d'être si serrés que les latins. Alors il insiste sur ce fait que l'article, bon, ces articles sont des non-valeurs, dit-il. Continuons. Ou bien que nous sommes obligés d'employer mon. D'où par exemple, je reconnais mon frère. Dans une tragédie ou des questions de Thieste, il dit « ce mot est lamentable, nous sommes obligés de l'employer en français ». Attention, pas que l'en français est moins bon, mais il est moins bon pour ça. Il dit « moi je dirais, je reconnais après, parce que dans « mon » il y a toujours une espèce de lien affectif, etc. » Alors, c'est très 18e siècle, un prince pourrait faire une belle expérience, nourrir 3 ou 4 enfants comme des bêtes, avec des chèvres ou des nourrices sourdes et muettes. Il se ferouait une langue, tous ces enfants-là donc. Examiner cette langue, à l'infinitif, voir la nature en elle-même et dégager des préjugés de l'éducation. Savoir d'eux, après leur instruction, ce qu'ils auraient pensé, exercer leur esprit en leur donnant toutes les choses nécessaires pour inventer, enfin, en faire l'histoire. Et voilà toute une psychologie génétique qui est mise en place. Arrivé en ce point, on peut peut-être comprendre le mot « esprit ». Il y a comme ça chez les auteurs des mots bizarres, comme le mot « cœur » chez Pascal. Pascal, tout à fait rigoureux, et puis qui emploie le mot cœur dans une douzaine de sens différents. Dieu sensible au cœur, c'est le cœur qui saisit les principes de la géométrie, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, etc. Et puis pour finir, il ne définit jamais. Et de la même manière, Montesquieu ne définit jamais vraiment ce que c'est que l'esprit. Mais l'esprit, c'est donc certainement quelque chose qui appartient aux choses, un mouvement interne aux choses, et puis c'est aussi un certain mouvement de l'intelligence humaine, ce même mouvement avec des actions, des réactions et des réactions de réactions, et c'est également, enfin, un mouvement à l'intérieur du langage. D'où il y a encore des remarques alors qui sont passionnantes. Hein. Par exemple, vous ne pouvez pas juger de la diction. Il dit, quand quelqu'un me demande si un mot est français, je puis répondre. Quand on me demande si une diction est bonne, j'y puis répondre. À moins que nous choque la grammaire. Mais pour le reste, une diction, c'est juste... Je ne puis savoir le cas où elle sera bonne, ni l'usage qu'un homme d'esprit en fera. Car un homme d'esprit est dans ses ouvrages créateur de diction, de tour et de conception. Il habille sa pensée à sa mode, la forme. Il la crée par des façons de parler éloignées du vulgaire, mais qui ne paraissent pas être mises pour s'en éloigner. Un homme qui écrit bien n'écrit pas comme on écrit, mais comme il écrit. Et c'est souvent en parlant mal qu'il parle bien. Alors, c'est une mauvaise maxime que de faire des dictionnaires des langues vivantes. Alors, il fait une jolie remarque à propos de Trinquet, qui nous éclaire encore sur Rabelais. On se souviendra peut-être que tout va vers, hein, pour le Graal de Rabelais, c'est la fameuse formule « trink », c'est-à-dire « bois », au singulier. Or, Montesquieu fait remarquer que le mot « trinquer » vient infailliblement du bruit que font deux vers en se choquant, dit-il. Et si l'on ne connaissait plus la vraie prononciation du « i » français, on la trouverait par le moyen de la lecture de ce mot dans les livres. Il dit, évidemment, il suffit de regarder « in » pour se rendre compte qu'on ne nasalise pas et qu'on ne dit pas « trinquer » à son époque, mais qu'on dit « trinquer » et que donc chaque fois d'ailleurs que nous voyons « i » et « n », il faut prononcer « in » et pas « un ». Alors vous direz pourquoi ne l'avoir pas l'avoir fait, parce que bien sûr, je crois qu'à ce moment-là, l'auditeur n'entendrait plus que cela. Il achève, on la trouverait par le moyen de la lecture de ce mot dans les livres, comme on a trouvé la vraie prononciation de loup en latin par le mot cuculus. Évidemment, pour que tout ça ait été possible, il a fallu un certain tempérament, un certain physique. Alors voilà, laissons-le dire, je me connais assez bien, je me connais assez bien. Je n'ai presque jamais eu de chagrin, et encore moins d'ennui. Ma machine est si heureusement construite que je suis frappé par tous les objets assez vivement pour qu'ils puissent me donner du plaisir, pas assez pour me donner de la peine. J'ai l'ambition qu'il faut pour me faire prendre part aux choses de cette vie. Je n'ai point celle qui pourrait me faire trouver du dégoût dans le poste où la nature m'a mis. Je m'éveille le matin avec une joie secrète, je vois la lumière avec une espèce de ravissement, tout le reste du jour je suis content. Je passe la nuit sans m'éveiller, et le soir quand je vais au lit, une espèce d'engourdissement m'empêche de faire des réflexions.
et ça continue comme ça. C'est-à-dire que pour que ce petit miracle ait eu lieu, il fallait qu'on ait un sociologue qui ne soit pas paranoïaque. Et en fin de compte, c'est un peu ça le miracle. Il a fallu une époque, il a fallu, bon, bien sûr, l'intelligence. Mais c'est ce fait que c'est un sociologue ou un pré-sociologue absolument non paranoïaque, comme Montaigne est extraordinaire, parce que c'est un psychologue non névrotique. Alors, on peut comprendre que quand certains Américains estiment que l'Europe a trop d'importance dans leur culture actuelle, c'est ce qu'ils appellent eurocentrisme, l'eurocentrisme, eh bien pour eux, l'Europe, c'est trois auteurs. Il y a un auteur anglais, Locke, Montesquieu, et puis Rousseau. Et c'est peut-être précisément parce qu'il n'y a pas là-dedans de dogme, parce que ce n'est pas un système, mais que c'est une succession de vues, que justement Montesquieu a pu jouer un pareil rôle comme base d'éducation. Il y a 1000 thèses, peut-être 10 000 thèses dans Montesquieu. Il dit lui-même, à peu près au début de son Esprit des lois, étant donné le nombre infini de choses qu'il y a dans ce livre.